Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. La CGT Auvergne-Rhône-Alpes est heureuse de vous retrouver pour sa nouvelle émission consacrée à l'industrie. Alors, est-ce que l'industrie a encore un avenir? Comment articuler production et sobriété? Est-ce que les entreprises sont au rendez-vous des transitions numériques, énergétiques, climatiques? Quelles sont les propositions défendues par la CGT? Notre région Auvergne-Rhône-Alpes se situe à la seconde place des régions les plus industrialisées, avec 482 000 emplois et au premier rang de la sous-traitance avec des activités très diversifiées. Néanmoins, le poids de l'industrie dans l'économie française est en déclin. Dans un rapport très récent, France Stratégie dresse un constat alarmant que la CGT partage. Il témoigne que la France est parmi les grands pays industrialisés celui qui a subi la plus forte désindustrialisation durant les dernières décennies et qu'il figure en queue de peloton sur le plan européen avec le Royaume-Uni. Depuis 1980, l'industrie a perdu près de la moitié de ses effectifs, soit plus de 2 millions d'emplois. France Stratégie souligne encore que si en 2018 et 2019, le retour à une croissance de l'emploi industriel a pu être espéré, la crise liée à la pandémie du Covid-19 réinterroge la volonté des politiques publiques des entreprises à s'engager résolument dans les transitions énergétiques, écologiques et numériques. Pour débattre de toutes ces questions, nous allons maintenant donner la parole à Fabrice Faure, animateur régional CGT de la métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Lallemand, ingénieur à Soitec dans l'Isère, délégué syndical CGT et membre du comité stratégique de la filière microélectronique. À vous la parole.
Bonjour Fabrice, merci de venir parler à Radio CGT. Donc on parle d'industrie aujourd'hui. D'après toi, l'industrie a-t-elle un avenir en Auvergne-Rhône-Alpes?
Oui, l'industrie, elle a un avenir. D'abord, il faut qu'on arrête de parler aussi de l'industrie du futur. Il faut déjà sécuriser l'industrie actuelle. Très belles choses qui se font. Et on a besoin aussi de réfléchir bien sûr sur celle du futur parce que il y a des défis qui sont à relever. Défis en formation des salariés, défis aussi en recherche et innovation, et notamment liés aux questions environnementales, d'énergie, et donc pour le futur. Donc ça nécessite un travail, un gros travail de réflexion et d'anticipation, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le comité régional, en travaillant sur le plan de relance, en lien aussi avec ce qui se fait confédéralement, avec Plus Jamais Ça, et donc qui nous permet d'avancer des propositions très concrètes dans les entreprises, et puis qui nous permet aussi de nouer des liens sur comment travailler différemment et d'expérimenter d'ailleurs des façons de faire.
On a des tas de discours politiques sur la relocalisation, l'industrie, l'investissement. C'est quoi en réalité entre ces discours et ce qui se passe dans les entreprises ici?
Ah bah c'est là où le bât blesse, oui, c'est que la réalité est différente. Pourtant, ça paraît simple et normal. Quand on dit ça, on n'annonce rien d'extraordinaire, rien de révolutionnaire. Ceci étant, il faut bien comprendre qu'on est confronté aussi à la réalité des entreprises qui malheureusement sont gérées par 3-4 dans un bureau qui décide de tout et notamment des stratégies. Et souvent des stratégies qui n'ont qu'une vision très court-termiste pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont focalisées que sur les résultats financiers. Alors ce que l'industrie, ce qu'elle a besoin, c'est de moyen terme et de long terme, d'être dans de l'anticipation pour pouvoir anticiper ces mutations et donc former les salariés, leur offrir de nouvelles qualifications, mais aussi la nécessité de changer de modèle, c'est-à-dire d'avoir un modèle où on réfléchisse aussi en termes de filière. On nous enferme dans la compétition entre entreprises, alors qu'aucune entreprise ne peut fonctionner à elle seule, mais on met en concurrence. Alors ce qu'on aurait besoin, c'est plus de partenariats, plus d'échanges. On dit souvent dans le sport qu'il faut la jouer collectif. Bah dans les entreprises, c'est pas vrai. Il faut être corporate, mais corporate par rapport à ce qui est décidé par 3-4 personnes. Alors ce que l'on a besoin, c'est au contraire d'avoir des liens beaucoup plus forts qui se nouent. Après, il faut aussi reconnaître que quand les ordonnances Macron ont mis en place le CSE, ça a considérablement réduit les moyens pour travailler ces questions, les moyens syndicaux, entre autres. Et donc, ça complique et ça montre bien qu'il y a une volonté politique d'enfermer et d'éviter la multiplication ce que je pourrais appeler des lanceurs d'alerte, et en tout cas du travail sur ces questions qui nécessite quand même un petit peu de moyens pour pouvoir travailler à la fois les résultats financiers, travailler des recherches documentaires sur l'avenir, sur ce qui va bouger, voilà.
Dans les discours qu'on entend, l'avenir de l'art, de l'industrie passe souvent par l'innovation, la recherche. Donc dans ce cadre-là se pose un problème assez important, c'est le lien recherche publique, recherche privée. Est-ce que tu peux aborder cette question ?
C'est-à-dire que la recherche publique est très opérationnelle, très efficace, sauf qu'on lui demande d'être au service d'industrie, mais d'industriels qui veulent récupérer ce qui est fait par le public pour leur bien unique, alors que ça devrait être un bien collectif et qu'on devrait avoir un travail plus en partenariat plutôt qu'en captation de ce qui peut être fait dans le public, et puis que là aussi tout soit mis sous le contrôle à la fois des élus mais aussi des salariés et des citoyens, parce que on le disait par rapport aux questions environnementales, et puis le Volkswagen Gate avec le Diesel Gate en est un bel exemple. Hors de question de faire confiance aux industriels. Les bonnes paroles, on sait ce qu'elles valent. Donc, le seul moyen, c'est plus d'intervention des salariés, des citoyens. Et ça passe par aussi des nouveaux moyens et des nouveaux droits. Mais c'est aussi un plus d'investissement des politiques, notamment avec des politiques d'orientation industrielle. Et plutôt que de mettre en concurrence, qui soit sur des logiques de filières où on cherche des partenariats et tout ça. Le titre d'exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la métallurgie pour la filière automobile, on est la première filière en France, malgré qu'on n'ait pas de constructeur automobile en tant que tel, puisqu'on n'a que du véhicule industriel avec Iveco-Bus et Renault Trucks. Pour autant, il y a tout un tissu de sous-traitance très important. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une logique de mise en concurrence, alors que les mutations sont bien là. Je vais prendre l'entreprise que je connais bien, Renault Trucks, la mienne. Forcément, on travaille sur des motorisations alternatives aux motorisations aujourd'hui diesel. Et donc, on a des fournisseurs aujourd'hui sur ces motorisations diesel, mais aussi sur toute la chaîne cinématique, moteur, boîte, arbre de transmission, les ponts. Et donc, est-ce qu'on attend le dernier moment pour voir disparaître tous ces savoir-faire, ou est-ce qu'on travaille avec ces entreprises pour leur dire « voilà ce que nous, on réfléchit, on travaille, est-ce que vous êtes capable de nous accompagner dans ces nouveaux défis ?» Et donc d'être dans une anticipation, à la fois sur des études et recherches avancées, demain aussi sur des vraies études pour pouvoir faire, pourquoi pas, des pré-séries pour valider les concepts, et puis ensuite former les salariés aussi. Je pense que les salariés ne sont pas opposés à changer de métier, à changer de chose, à condition qu'on leur laisse de temps, qu'on ne l'impose pas, alors qu'aujourd'hui, les logiques, c'est plutôt les PSE, voir les ruptures individuelles ou collectives, qui sont plus faciles, ça ne fait pas de bruit, pas de vagues, ça fait le ménage. Mais c'est quand même le coup repose sur la société civile et pas sur les industriels, alors qu'on pourrait, par une anticipation et un travail, dans ce sens-là d'anticipation, éviter que les gens passent par la case ANPE, chômage, et que ça se fasse beaucoup plus sereinement et tranquillement.
Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples pour illustrer tes propos ?
On travaille aussi avec Ferropem, par exemple, sur la situation de Ferropem, avec les camarades de la chimie, avec les camarades de l'énergie. Donc là aussi, ça montre qu'on a besoin d'une CGT plus ouverte, décloisonnée, qui s'ouvre sur le monde pour l'anticiper, pour sortir de là où on veut nous enfermer aussi. On a l'exemple des ACC, qui étaient dans la rénovation ferroviaire, qui est à Clermont-Ferrand, où on a travaillé CGT RATP, CGT Cheminot, pour avoir un vrai plan de relance de cette industrie, qui aujourd'hui a redémarré et va très bien, ce qui montre qu'il y a des possibles. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est... les exemples existent, il faut les faire partager, il faut engager une nouvelle dynamique par rapport à ça. Donc oui, moi je suis assez confiant sur ce que l'on peut faire. Après, il faut aussi, comme je l'ai dit, changer de paradigme dans les, entre guillemets, les industriels. Mais y en a-t-il encore vraiment ? N'est-ce pas que des financiers ? Donc il y a ça qu'il faut bouger. Et puis surtout, l'intervention des politiques qui, au lieu de dépenser l'argent public sans contrôle, sans contrepartie, là aussi, on a besoin que l'argent, certes, il y en a peut-être, et c'est bien, d'aider des entreprises, pourquoi pas, mais d'abord des entreprises qui en ont réellement besoin pour les aider et les accompagner dans ces mutations nécessaires. mais aussi pour, comme je l'ai dit, accompagner la formation des salariés. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle, aucune contrepartie qui n'est demandée. Donc, l'argent, il va où ? C'est à la confiance. Et ça ne peut pas marcher, on l'a déjà vu. Là aussi, il y a une intervention des salariés à travers les élus qui est nécessaire sur ces dossiers. Il faut aller gratter, il faut aller chercher pour mettre ça sur la place publique et pour montrer que la CGT a raison quand elle dit qu'il faut plus d'intervention et non pas moins d'intervention dans les entreprises sur le contrôle.
Merci beaucoup. Ah, si j'avais une dernière question. Donc, tu as parlé des plans de relance, du travail de la CGT. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce qui est mis en place par la CGT?
Alors, ce qui est mis en place, c'est... dès qu'il y a eu l'annonce du plan de relance, déjà, confédéralement, mais je le laisserai développer, on peut le trouver sur le site de la CGT confédéralement, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, dès le début, on a décidé de mettre en place un collectif avec secrétaire d'UD, des camarades aussi de profession, notamment de la métallurgie, pour travailler ces questions du plan de relance. Ça nous semblait important de regarder quelles étaient les entreprises qui demandaient des fonds, pour quel type de projet, pour quoi faire, justement, pour aider dans les départements, dans les territoires, mais aussi dans les professions. Toujours dans cette idée de décloisonner, c'est-à-dire on donne des informations, on les rend lisibles, parce que c'est vrai que c'est un vrai travail, hein. Il a fallu prendre du temps pour compiler, analyser, récupérer tout ça, et donc le mettre à disposition de la CGT. On n'a pas fait que ça, on a aussi interpellé les politiques et notamment la région. Malheureusement, de ce côté-là, on n'a pas trop d'écoute. Hein. Ça fait plusieurs années que l'on cherche à travailler ces questions avec la nouvelle équipe en place à la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pilotée évidemment par Wauquiez, comme tout le monde le sait, et qui malheureusement plus enclin à recevoir les patrons que les représentants des salariés. Bon, c'est comme ça, ceci étant... On ne lâche pas l'affaire et donc on continue régulièrement à interpeller, bien sûr Wauquiez, mais aussi les autres groupes politiques qui sont représentés à la région pour là aussi leur donner des éléments et partager avec eux des choses pour essayer de faire bouger les lignes sur ces questions. Ce que l'on fait aussi, c'est y a eu quand même un rassemblement aussi hein, qui ont eu lieu sur des situations d'entreprise bien particulières comme les Luxfer, comme les Ferropem, comme Photowatt, où on avait fait un rassemblement devant la région par rapport à ça, sur l'avenir. Et puis aussi par rapport à des projets, alors là, qui ne sont pas sur la région, mais je rappelle le projet Hercule, où il y a quand même eu là, grâce à l'action de la CGT, mis en délibéré à la région un vote de tous les groupes politiques et tous les élus ont voté contre, en demandant au gouvernement de renoncer à son projet Hercule sur l'énergie. Donc ça montre que la CGT n'est pas que dans la critique, elle est aussi dans des propositions et dans un travail très concret pour aider sur le terrain les camarades.
Merci Fabrice et à bientôt.
Fabrice, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans ton entreprise et sa place dans l'industrie ?
Bonjour, je m'appelle Fabrice Lallemand, je suis délégué syndical CGT dans l'entreprise Soitec, qui se situe à peu près 25 km de Grenoble. C'est une entreprise en fait, qui fabrique des plaquettes de silicium sur lesquelles on va venir faire des puces, et ces puces, vous allez les retrouver dans vos téléphones portables, dans votre voiture ou différentes applications du quotidien. Faut savoir que c'est une industrie, alors on parle de l'industrie microélectronique qui va donc faire ses puces, qui est une industrie transverse vis-à-vis de nombreuses filières qu'on appellera filières clientes ou filières en aval, comme l'automobile, l'aéronautique ou même tout ce qui est équipement d'automatisme et qu'on va retrouver dans toute l'industrie. Il y a une dépendance aujourd'hui qui est énorme vis-à-vis de l'Asie, pour la microélectronique, donc le semi-conducteur, mais on pourrait dire sur toute la filière électronique. Il faut savoir qu'il y a seulement 10% des puces utilisées en Europe qui sont produites en Europe. Voilà. Pour revenir à Soitec, c'est un site où il y a de la production et il y a également des chercheurs et des fonctions de support qui vont faire le lien justement entre la recherche et la production. On est aujourd'hui 1400. Et ce qui est assez intéressant dans cette entreprise, c'est qu'il y a à peu près un tiers d'opérateurs ouvriers, un tiers de techniciens, agents de maîtrise, et un tiers d'ingénieurs cadres. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on revient de très loin. En 2015, l'entreprise a perdu 800 millions d'euros après une diversification ratée dans le domaine du solaire, et la boîte aurait dû mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, tout s'est retourné puisqu'on est revenu sur le cœur de métier qui est donc le semi-conducteur, et l'entreprise est en très forte croissance avec un exercice là cette année où il est prévu de faire plus 45% de chiffre d'affaires. Donc c'est assez énorme pour passer quasiment à 900 millions d'euros. Et voilà un effectif, comme je l'ai dit, qui s'accroît avec beaucoup d'embauches de jeunes salariés.
À ton avis, comment faire pour que l'industrie ait un avenir? La parole est à toi.
Quand on pose la question de la réponse aux besoins, comme on se la pose souvent à la CGT, ben, la réponse aux besoins implique d'avoir une industrie qui va produire les biens qui sont associés. Après, le point de départ, c'est effectivement de partir des besoins, d'interroger cette notion qui peut être très, très vaste de besoins. Il y a des besoins vitaux, il y a des besoins qui sont non vitaux, mais qui sont nécessaires, hein, pour plein de choses, hein, sinon la vie serait ennuyeuse. Et donc, voilà, l'industrie va répondre à ses besoins en produisant. Par contre, se pose la problématique majeure et même vitale que nous devons gérer, qui est la crise environnementale. Aujourd'hui, on sait que la planète Terre, c'est un écosystème qui est fini. Donc, on doit interroger nos besoins. Et si on prend l'exemple du numérique, on parle souvent à tort d'économie dématérialisée, comme si, il n'y avait pas de consommation d'électricité, comme s'il n'y avait pas de consommation d'eau, comme s'il n'y avait pas beaucoup de déchets, comme si on n'allait pas exploiter des mines pour avoir des métaux rares. Donc, ça doit être au cœur de notre réflexion quand on parle d'industrie. Quand on parle aussi de crise environnementale, on parle aussi de transport et relocaliser notre industrie. Et ça, en France, mais partout ailleurs dans le monde, près des lieux de consommation, c'est quelque chose qui est justement majeur pour diminuer notre impact. Voilà, et ça va à l'encontre de toutes les délocalisations qui ont été faites pour faire du dumping social et environnemental, où on voit que les États occidentaux, et voilà, on pourrait parler de la France, se sont déresponsabilisés, en particulier sur l'environnement. L'environnement, on va dire que la Chine pollue alors qu'ils produisent pour une grande partie de nos États. Donc voilà, après, il faut savoir que tout processus de transformation, et donc a fortiori l'industrie qui va faire des transformations à grande échelle, tous ces processus sont polluants, et donc comme je l'ai dit, consommateurs d'énergie, etc. Donc il est important aujourd'hui qu'on utilise il faut qu'on utilise notre intelligence collective pour être plus sobre et donc diminuer notre empreinte. Donc aujourd'hui, l'industrie, c'est pas, comme on pourrait le penser, quelque chose de vieux qui serait dépassé et dont on pourrait se passer. Mais justement, c'est un enjeu énorme pour notre économie et pour l'humanité même, on pourrait dire. Donc c'est un enjeu aussi bien sûr social en nombre d'emplois, puisque après des décennies de destruction de notre industrie, ce qu'on veut à la CGT, nous, c'est justement refaire partir cette industrie, relocaliser et puis voilà, créer les coopérations entre États qui permettront aussi à tout le monde de pouvoir se développer. Et si je finis aussi sur l'aspect qui est important pour moi, c'est l'environnement. Il faut aller vers plus de durabilité des produits, penser les processus de recyclage lors de l'élaboration des produits, ce qui n'est pas fait aujourd'hui.
By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules.
When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. But you really can't function, you're so full of fear.
Après cette petite pause musicale en compagnie de Marianne Faithfull qui reprenait Working Class Hero, nous vous proposons de retrouver Fabrice pour la suite de son entretien autour des enjeux de la recherche, de l'investissement et de la formation professionnelle. Et ensuite un petit aperçu des propositions de la CGT concernant l'industrie en compagnie d'Agnès.
On doit aujourd'hui utiliser nos cerveaux, non pas pour aller plus vite et plus loin, mais rendre nos modes de vie compatibles avec notre écosystème et donc créer des procédés qui vont être performants. Et donc, c'est nécessaire qu'on repense l'équilibre entre la recherche publique et la recherche privée, car quand on recherche dans une économie libérale le profit maximum, ça ne va pas forcément pousser vers les domaines de recherche qui sont les plus pertinents pour tous les enjeux qui sont les nôtres. Aujourd'hui, à Soitec, 40% de la recherche est financée par de l'argent public, que ce soit par le crédit impôt recherche ou divers projets européens ou nationaux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que moi-même étant chercheur, il y a une grosse partie du temps de travail des chercheurs dans le privé qui sert justement à aller chercher de l'argent. D'accord, on peut se dire que c'est, on peut penser que c'est pas là où ils ont la plus grande valeur ajoutée. Et en plus, on assiste à un phénomène de sous-traitance. Des boîtes comme ST, Soitec vont sous-traiter leurs recherches sur des organismes publics ou semi-publics comme le CEA, et donc vont avoir un impact très fort sur les domaines de recherche qui vont être jugés les importants, alors que ça doit être interrogé. Concernant bien sûr l'investissement, on est dans le semi-conducteur sur une filière qui est très capitalistique. C'est une nouvelle usine de fabrication de puces, c'est 10 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Et un tel investissement, ça interroge à l'échelle nationale et même européenne. Hein. Aujourd'hui, c'est même au niveau de l'Europe qu'on parle du semi-conducteur. Et vous en avez entendu parler dans le cadre de la pénurie des composants. Donc ça pose la question de la démocratie, de la place des citoyens sur ces choix d'investissement qui sont loin d'être anodins. Après, la question, c'est est-ce qu'on doit réinvestir dans cette filière pour laquelle nous sommes en très grande dépendance, et on l'a vu, des lignes de production de voitures ou autres, hein, il y a plein de filières qui sont touchées à cause du manque de composants électroniques. Et aujourd'hui, voilà, notre économie, elle a une dépendance vis-à-vis de ces composants, avec le poids de l'outil informatique en général, que ce soit pour la vie des citoyens ou dans l'industrie. Donc voilà, il y a une dépendance, et en plus sur certains problèmes que je ne développerai pas, mais sur la souveraineté et la protection des données, que ce soit les données des citoyens, mais aussi les données des États, donc les problématiques de défense, ne pas fabriquer ces composants électroniques, c'est problématique. Il y a deux très gros acteurs qui sont des pays, on va dire, à taille relative, hein, Taïwan et la Corée du Sud, qui ont fait ces choix d'investissement et qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Aujourd'hui, on devrait mieux répartir la production de ces composants à l'échelle mondiale et ne pas dépendre de ces deux États comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est que on peut revendiquer des investissements, mais sûrement pas dans les conditions actuelles, puisque les aides actuelles, elles sont non conditionnées. D'accord? Et aujourd'hui, on aurait plein de choses à dire pour rendre plus efficace notre filière et donc créer des coopérations entre les gros acteurs industriels. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune coopération entre les acteurs industriels et nos différents centres de recherche européens. Voilà, et même avec les filières clientes. Voilà. Enfin, concernant la formation professionnelle, c'est un enjeu énorme sur cette filière, puisque malgré le fait, comme je l'ai dit, qu'on produit on produit très peu de puces par rapport à nos besoins. Hein. Aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans notre filière. Donc, malgré cette filière qui est insuffisante pour répondre à nos besoins, on n'a pas assez de salariés à tous les niveaux de qualification pour travailler dans ces entreprises. Donc, il faut créer des écoles de formation en relation avec les professionnels de l'enseignement public, hein, puisque le risque aujourd'hui, c'est que les boîtes privées imposent, entre guillemets, leur ingénierie de formation. Et ça pose un problème parce que on est travailleur, ok, mais on est aussi citoyen. Donc, il faut penser la formation en ayant toujours en tête que l'on est citoyen. Et voilà, on avait un projet de formation pour les techniciens de salle blanche. Donc, au niveau de Soitec, on a parlé avec ST et le CEA. Le but, c'est de répondre à un besoin. Aujourd'hui, 50% des besoins pour les techniciens de salle blanche se situent dans le bassin grenoblois. Donc, faire une telle école de formation aurait un intérêt pour la formation initiale, mais aussi la formation continue, et ça donnerait des perspectives d'évolution pour les opérateurs et donc les ouvriers de nos entreprises pour pouvoir aller vers des postes de techniciens. Ça rendrait plus attractive notre filière, puisqu'on imposerait avec ces écoles de formation une véritable reconnaissance de la qualification des salariés. Et bien sûr, on pousserait sur l'augmentation des salaires, puisque à toute formation et à toute qualification, on doit mettre un salaire qui soit acceptable.
Merci beaucoup Fabrice d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
À la CGT, nous considérons qu'il est plus qu'urgent de changer de modèle de développement économique. Tant que les choix politiques seront guidés par le taux de profit et non pas par la réponse aux besoins sociaux et aux enjeux environnementaux, le déclin de l'industrie, selon nous, se poursuivra et pas seulement. En effet, les services liés à l'industrie, les services publics, la protection sociale sont autant de secteurs touchés par les mêmes logiques de marchandisation à tout prix au service de quelques intérêts particuliers. Pour autant, la crise sanitaire a créé un électrochoc dans l'opinion face à notre dépendance industrielle et donc à notre incapacité à produire des masques, des bouteilles d'oxygène médical ou encore des vaccins, conduisant le gouvernement à subventionner les entreprises afin de relancer rapidement l'économie et d'obtenir des résultats en matière de décarbonation, de reconquête industrielle, de renforcement des compétences et des qualifications sur l'ensemble du territoire. Ainsi, un plan exceptionnel, dénommé plan de relance, de 100 milliards d'euros, soutenu à hauteur de 40% par l'Union européenne, a été déployé par le gouvernement. En octobre, Le gouvernement a également décidé d'un plan d'investissement pour construire la France de demain. Ce plan ambitionne de retrouver le chemin de notre indépendance environnementale, industrielle, technologique, sanitaire et culturelle et de prendre un temps d'avance dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique ou encore l'espace. Alors chiche, lance la CGT, qui depuis plusieurs décennies se prononce pour une véritable stratégie de réindustrialisation en conditionnant toutes les aides publiques versées aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux. La crise sanitaire, l'urgence écologique, l'ampleur des inégalités et de la pauvreté, l'angoisse de l'avenir, particulièrement chez les jeunes, côtoient l'indécence des gains sur les marchés financiers. Le scandale des Pandora's Papers, le record historique du CAC 40 le mois dernier, interpelle véritablement sur le sens, la finalité et la pérennité des choix politiques qui vont à l'encontre du bien commun. Oui, la question est posée, allons-nous pouvoir construire un monde d'après avec les vieilles recettes du monde d'avant et qui nous conduiront inévitablement au chaos si nous n'en changeons pas. La CGT, comme d'autres acteurs, pense qu'il n'existe aucune fatalité. Rompre et nous émanciper d'un système qui résonne à court terme pour privilégier avant tout la finance en organisant le dumping social et environnemental, la mise en concurrence entre les territoires et les travailleurs, est un objectif qui n'est plus du domaine de l'utopie pour un nombre grandissant de citoyens et d'acteurs. C'est au contraire une alternative nécessaire et incontournable pour le devenir de l'humanité. Inventer, construire un autre mode de production et de développement en replaçant le travail, l'humain et la nature au cœur des choix des politiques publiques pour répondre aux besoins sociaux fondamentaux s'affirme jour après jour comme étant une priorité pour assurer la cohésion sociale, le vivre ensemble, à l'exemple du droit à l'énergie, au logement, à une bonne alimentation, à la santé, mais aussi au transport et à l'éducation, ainsi qu'à l'eau, la culture. C'est pour cela que la réindustrialisation du pays ne pourra pas s'envisager sans des services publics, un aménagement du territoire et le développement des infrastructures indispensables sur tout le territoire. Vous l'aurez compris, pour renforcer et développer l'industrie, ses emplois et ses compétences, il faut reprendre la main sur le travail, au service de l'intérêt général et de la réponse aux besoins sociaux, économiques et environnementaux. Et s'agissant de la survie de l'espèce humaine et de la planète, il y a bel et bien urgence.
Nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez entendu, outre nos invités, les voix d'Agnès Laton, secrétaire générale du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, d'Elisa Balestrini de l'UD38 et la mienne, Karine Guichard de l'UD26. Retrouvez-nous pour la prochaine émission qui sera la suite logique de celle-ci. Quelle est la place des travailleuses et des travailleurs dans la transformation de l'industrie? Mais avant de nous quitter, retrouvons Agnès pour une poésie. À très bientôt et restez à l'écoute.
Bonne pensée du matin, Arthur Rimbaud. À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Mais là-bas, dans l'immense chantier vers le soleil des Hespérides, en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Ah ! Pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus laisse un peu les amants dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie pour que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer, à midi. La radio.